Et sur l'antenne d'RTVFM aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être à la mission locale du canton Venaissin pour une émission spéciale On Air où on va parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de trois jeunes qui sont donc en contrat engagement jeune au sein de la mission locale. Nous avons Nasra, Mathéo et Émilie. Bonjour à tous les trois.
Et coucou.
Bonjour.
Alors on va parler avec vous donc de l'intelligence artificielle et je serai accompagné aussi de notre animateur qui s'appelle Sacha. Bonjour Sacha.
Et bonjour.
Alors,
et bonjour.
Alors Sacha, on va parler donc de cette intelligence artificielle et moi je vais poser un petit peu la première question tout d'abord à Nasra. Nasra, est-ce que tu as déjà utilisé toi l'IA? Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Oui.
Et à quelle occasion?
Pour des cours, parce que, je sais pas si je m'entends, parce que par exemple, vu que j'arrive pas forcément à retenir en ayant des gros textes, bah, je demande à l'IA de raccourcir tout ça et de résumer, et aussi de me faire des exercices pour que je puisse m'exercer un peu.
Donc toi, tu utilises l'IA tous les jours, une fois par semaine, comment tu le quantifierais?
Peut-être deux fois par semaine.
Deux fois par semaine, donc une utilisation correcte, on va dire. Ouais. Lequel utilises-tu le plus?
ChatGPT, c'est le seul.
ChatGPT, c'est le seul, ok. Pour Mathéo.
Oui.
Toi, quelle IA utilises-tu et est-ce que tu l'utilises?
Alors oui, j'utilise IA et j'en utilise plusieurs. J'utilise Claude, ChatGPT, Grok pour tout ce qui est génération d'images ou encore Gemini. Voilà.
Donc Nano Banana aussi, tu me disais, donc Gemini.
Oui, Nano Banana, ouais.
Ok. Et pourquoi plusieurs finalement? Parce que tu trouves que sur un seul IA, il n'y a pas assez d'informations?
Non, c'est... Alors, j'utilise plusieurs IA parce que pour moi, il y a différentes IA qui arrivent à faire le mieux de choses. Enfin, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais dans le sens où, par exemple, Grok va mieux générer d'images de plus belle qualité ou plus logique que, par exemple, ChatGPT ou Claude, et inversement.
Alors juste, on coupera. Le principe du technicien, c'est que si c'est trop fort que ça dépasse, tu baisses le potard ou tu le montes. Ok. Pour Émilie, est-ce que toi tu utilises l'intelligence artificielle?
Non.
Et pourquoi non?
Parce que je trouve que c'est inutile au possible.
Qu'est-ce qui est inutile?
Je préfère penser par moi-même et faire des recherches Google.
Ok, donc tu préfères aller quand même sur Google, qui est la même maison finalement que ChatGPT, c'est ça? Ou que Gemini, plutôt, pardon, que Gemini?
C'est ça, mais je n'utilise pas Gemini.
Ok, et pourquoi est-ce que tu as peur? Tu as peur de l'utiliser?
Non, j'ai pas peur, c'est juste que je préfère faire des recherches, m'intéresser à des sujets, fouiller.
Et est-ce que finalement tu utilises pas l'IA sans t'en rendre compte des fois?
Je pense pas.
Et tu me disais que tu l'utilises dans Photoshop notamment?
Dans Photoshop.
Ok, donc là tu l'utilises quand même, c'est intégré à Photoshop.
C'est
pourquoi
ça.
Pourquoi tu l'utilises?
C'est juste un outil pour effacer des éléments sur une photo. Mais je l'utilise à très très petite échelle.
Mais tu l'utilises quand même comme un outil.
C'est ça.
Ok. Et pourquoi est-ce que tu l'aimes pas? Ça peut remplacer du coup l'humain dans certains cas?
Je pense que ça peut remplacer des professions.
Ça peut remplacer des professions. Tu cibles lesquelles par exemple?
Par exemple les métiers de graphisme, les métiers d'écriture, les métiers dans l'administratif.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nasra, Mathéo? Est-ce que ça va supprimer des métiers ou est-ce que ça va créer de nouvelles opportunités?
Moi, je pense que ça va vraiment supprimer des métiers. Bah, comme elle a dit, Émilie, tout ce qui est écriture, administratif et tout ça. Il y a aussi le métier des productions au niveau de la musique, parce qu'on a beaucoup de contenu, des chansons générées par l'IA, et ça, en fait, ça supprime le travail de beaucoup de producteurs en fait, qui sont là pour justement produire des musiques pour les artistes, et au final ils se retrouvent à se faire remplacer par des robots quoi.
Pour Mathéo, qu'est-ce que tu en penses toi?
Honnêtement, tout dépend le point de vue qu'on a. Faut savoir aussi que l'IA, ok, c'est cool, mais ça dépend ce qu'on en fait et ça dépend comment on l'utilise. Faut voir ça un peu comme une voiture. Si tu sais la conduire, tout va bien et tu peux aller à destination facilement, mais si tu ne sais pas conduire, tu peux te retrouver avec un résultat catastrophique. Donc après, tout dépend.
Donc toi, Mathéo, tu l'utilises principalement pour tout ce qui est création de jeux vidéo, d'images finalement, donc images et vidéo, hein, c'est un peu les deux utilisations principales
que
tu en fais.
Ouais, c'est ça, pour dev aussi, ouais.
Ok, dev, précise ce que c'est.
En gros, dev, c'est créer du code pour générer en gros les éléments dans les jeux vidéo, quoi.
Nasra, toi tu l'utilises pourquoi principalement?
Du coup pour les cours. C'est
C'est-à-dire pour les cours, qu'est-ce que tu fais avec ? Tu triches ?
Non. Non. Enfin, j'appellerais pas ça de la tricherie. C'est plus. Bah, il me résume mon cours et il me propose des exercices en fonction de ce que je lui ai envoyé, des cours. Et après, déjà, je fais en sorte qu'il me donne pas les réponses dès le premier coup. Et après, là, je demanderai des réponses en fonction de ce qu'il m'a donné. Par contre, j'essaye aussi de vérifier auprès de certains camarades pour voir si, du coup, j'ai un peu juste quand même pas me fier 100% à ce qu'il me dit, ChatGPT, on sait jamais.
Pour Sacha, toi, tu l'utilises pour quoi, l'IA ?
Pour à peu près tout, je dirais, génération d'images, traitement de texte et aussi un petit peu de la musique, de temps en temps.
Alors venons un petit peu sur cette utilisation que tu trouves négative, toi, Émilie. Pourquoi ? Parce que ça pollue ?
Parce que ça pollue, parce que ça rend...
T'as des exemples de pollution ?
Bien sûr.
Tu as des exemples de pollution, du coup, Émilie ?
Oui. L'utilisation de l'IA produit du CO2. Et le CO2, on sait tous que c'est... que ça pollue. Mmh. Aussi, il faut de l'eau, beaucoup d'eau pour refroidir les serveurs. Et c'est pas de l'eau de mer qu'ils utilisent, c'est de l'eau potable.
C'est de l'eau potable, effectivement, dans la plupart des cas. En plus, on utilise une tâche qui est complexe. Effectivement, au plus, ça va potentiellement polluer. On disait codage, on parlait de génération de code, hein, effectivement. Donc, au-delà de la pollution, tu disais aussi qu'on pouvait perdre potentiellement son emploi. Tu pensais à traducteur, traductrice, c'est ça ?
C'est ça.
Pourquoi aujourd'hui ?
Parce que les entreprises préfèrent utiliser l'IA pour... par exemple, les entreprises d'édition préfèrent utiliser l'IA pour traduire des livres plutôt que de faire appel à un traducteur.
Est-ce que vous l'avez constaté, ça aussi, Mathéo, Nasra ?
Oui.
Ouais, effectivement, ouais.
C'est des secteurs qui sont impactés. Vous voyez d'autres secteurs qui pourront être impactés dans les années à venir ?
Tous les jours, il y en a plein. Il y a la médecine, la recherche, le...
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt un complément ?
Non.
Bah, du moins, elles seront...
Pour l'instant, en tout cas.
Ce seront des millions qui seront impactés. Donc,
des millions de personnes sur différents secteurs d'activité. Et est-ce que les métiers dits manuels, finalement, ont peu de risques ou pas ?
Ça dépend lesquels.
Des exemples ?
Les artistes.
La manutention, on disait la manutention.
La manutention, ça dépend. Ça dépend si ils produisent des robots qui sont capables de porter des charges immenses. D'ailleurs, ce serait plus rapide qu'avec des humains, je suppose.
On aurait pu faire ce débat il y a quelques années sur l'arrivée d'Internet. Est-ce que vous pensez que c'est pire que l'arrivée d'Internet ?
Oui.
Je sais pas. Honnêtement, je suis un peu mitigé.
C'est vachement plus pire.
Pourquoi ?
Alors déjà, Internet, bon, je ne suis pas trop documentée sur le sujet, mais je pense que ça pollue beaucoup moins quand même. Déjà, j'ai cherché l'utilisation de ChatGPT, ça pollue 10 fois plus qu'une recherche Google. Donc forcément que oui, c'est
ça va utiliser des données qui sont quand même sur le web souvent,
ouais.
Enfin qui ont été rentrées en tout cas sur Internet. Donc effectivement, ça va récupérer ces données qui sont déjà existantes. Donc pour toi, effectivement, l'IA, c'est pas forcément...
Non, pas du tout.
Mathéo, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je t'ai entendu faire...
Ouais, je suis un peu mitigé, donc honnêtement, je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, là.
Sacha, on va lui poser la même question. Est-ce que pour lui, finalement, l'arrivée d'Internet, c'était un petit peu comparable ou aujourd'hui, c'est bien pire, l'arrivée de l'IA ?
Je pense que je suis d'accord avec Nasra, et c'est même bien pire que ce qu'on peut penser.
Pourtant, tu l'utilises ?
Je l'utilise et je l'assume. J'assume que j'utilise l'IA et tout. Mais de ce que moi j'utilise l'IA et de ce que je vois pourquoi elle est utilisée, je trouve que parfois ça va un peu loin.
Est-ce qu'aujourd'hui tu serais capable de te passer de l'IA ?
Oui. En fait, je pense que je pourrais même m'en passer et même avec c'est pas grave si j'utilise pas l'IA, mais je pense qu'on s'est tellement habitué à ça que maintenant ça devient juste un besoin permanent.
On va poser la question à Nasra. Nasra, est-ce que tu serais capable de te passer de l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans tes cours, dans ta vie de tous les jours ?
Oui.
À un rythme que 2 fois par semaine ?
Franchement, oui. Déjà, je n'utilise pas beaucoup. Et si j'arrive aussi à trouver une méthode de travail adaptée à comment j'ai besoin de réviser, je pense que oui, je pourrais très clairement m'en passer.
Bonne invention ou mauvaise invention ?
Mauvaise. Vraiment mauvaise. Parce que, par exemple, avant, quand on faisait des recherches pour des exposés à l'école, tout ce qui nécessitait d'aller sur Internet, on allait de nous-mêmes, on tapait de nous-mêmes, on se documentait soi-même. Mais là, ça pousse les gens à moins aller se documenter, se cultiver.
C'est ça.
Donc, ouais, vraiment, c'est...
Est-ce que ça risque pas d'être plus dangereux sur les nouvelles générations que sur nous ?
Ah si, si, vraiment beaucoup. Parce que du coup, là maintenant, on retrouve beaucoup de commentaires du type « Oui, les gens, comment ils faisaient avant sans ChatGPT ?» On se documentait en fait, on cherchait, on se cultivait, enfin bref, on n'avait pas besoin d'un robot pour faire le travail à notre place.
Émilie, tu es d'accord avec ça ?
Je suis complètement d'accord.
Ouais. Est-ce que ça va pas trop vite aujourd'hui ?
Si, 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 bien sûr. Même avec les contenus Instagram, TikTok, qui durent 20 secondes maximum. Enfin, on nous a conditionnés à aller beaucoup plus vite qu'avant.
On nous vend l'IA comme un gain de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Plutôt, ouais.
Ça dépend de l'utilisation.
Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est plutôt infini ? On a fait le test là avant cette émission. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois à la fin d'une réponse ? Est-ce que Sacha, tu peux nous dire ce qui se passe quand on pose une question à l'IA ?
À chaque fois qu'on a une conversation avec l'IA et que, en fait, il nous pose une autre question pour du coup inciter à parler plus et du coup ça crée comme une forme d'addiction.
Et alors on lui a posé la question ?
Oui, on lui a posé la question, on lui a dit est-ce que le fait que l'IA pose une question à la fin de chaque conversation ne serait pas une forme d'addiction au système ? Et elle nous a brossé dans le sens du poil en mode c'est effectivement, je comprends que ça peut être une forme d'addiction, mais c'est pas vraiment une forme d'addiction. Là, c'est de tourner un peu le sujet.
Moi, je disais, c'est un petit peu comme quand on scrolle sur les réseaux sociaux. On en retrouve finalement à ce même problème. C'est-à-dire, quand on scrolle, il y a des vidéos, c'est infini, sur TikTok, etc. Finalement, sur l'IA, c'est un petit peu la même chose.
Ça dépend.
Oui. Moi, je pense que oui.
Non, moi, j'arrive bien à voir la similarité avec les réseaux, ouais.
Enfin, oui, il y a une similarité dans le sens où oui, on scrolle, etc., mais... Comparé à ChatGPT, TikTok, t'as de tout. T'as des contenus où, en fait, t'apprends clairement rien.
Est-ce que vous faites confiance aveuglément à l'IA ?
Non.
Non.
Pas du tout.
Pas du tout. Quand vous vous posez une question, est-ce que la réponse qu'elle vous donne, vous allez des fois vérifier quand même ?
Oui.
Tu vas vérifier où, du coup ?
Sur Internet. Google.
Sur Google ? Bah, est-ce que Google aussi peut pas te mettre en avant des sites où la réponse est fausse ?
Après, comparé à ChatGPT, ils vont proposer... des choses que quand tu vas
plus de sites.
Ouais, enfin déjà justement moins de sites sur ChatGPT vont plus résumer, alors que sur Google t'as plein de sites, plein de où tu peux vérifier justement, voir et comparer.
Mais même tout en bas de l'écran, quand on parle à ChatGPT, carrément ça nous dit ChatGPT peut se tromper, donc merci de bien regarder les informations qui donne.
Émilie, est-ce que tu trouves que ça rend les gens un petit peu moins intelligents ?
Oui.
Oui, et est-ce que tu as un exemple de choses que tu as vues, entendues ces derniers temps, notamment sur quelqu'un qui a posé une question sur Gemini, sur des antihistaminiques ?
Ah oui. Oui, oui, ce matin, on m'a demandé d'appeler les pompiers parce que quelqu'un était en train de faire une crise d'allergie. Je lui ai dit « J'ai des antihistaminiques si tu veux ». Et il me dit « Ok, mais d'abord, je vais demander à ChatGPT si je peux les prendre. »
Donc on perd du temps, finalement, là. Imaginons, on aurait fait ça. Vous l'avez fait, du coup, ou pas ?
Mais il l'a fait, oui.
Il l'a fait, qu'est-ce que lui a répondu, ChatGPT ?
Il lui a dit que oui, il pouvait les prendre.
Et c'était vrai ou pas ?
Bah oui, c'est des antihistaminiques, c'est fait pour arrêter l'allergie.
D'accord, donc en fait, on a perdu du temps, finalement, c'est avant la prise en charge. Donc en fait, le temps qu'on aurait perdu potentiellement à poser une question, si ça avait été grave, la personne serait peut-être décédée.
C'est ça.
Ouais. Donc on voit effectivement les limites de l'IA et les travers en tout cas de faire confiance à l'IA qui peut aussi se tromper et dire excusez-moi en fait c'était pas la bonne chose ou entre guillemets voilà.
C'est ça.
Moi je voudrais parler maintenant un petit peu de...
Oh pardon.
du positif de l'IA dans tout ça, puisqu'on parle de négatif, il y en a beaucoup, mais il y a peut-être aussi du positif. On parlait de recherche, on parlait de développement, notamment l'IA dans la médecine aussi. Est-ce que vous avez des exemples que vous avez entendus ces dernières années, ces derniers mois, justement sur du positif sur l'IA?
Alors oui, il y a très récemment, j'aurais pas la source en tête, mais il me semble que c'était à la radio, j'ai entendu que du coup l'IA avait été mis du coup à disposition pour tout ce qui est recherche et développement dans les milieux global quoi, pas dans un secteur précis. Et honnêtement, de ce que j'avais vu, ça marchait très très bien. Donc voilà, après il y a eu aussi la médecine où on a missionné l'IA et pareil, ça marche aussi très bien.
Et est-ce que vous utilisez aussi l'IA des fois pour des tournures de texte, pour des mails, hein, ça peut arriver, si vous avez des petits soucis d'orthographe, etc., pour vous aider à corriger, vous l'utilisez sur tout ça?
Oui. Non.
Je pense que c'est là où je l'utilise le plus, honnêtement.
D'accord. Et est-ce que, alors, du coup, l'IA, c'est une menace sur le long terme ou c'est un super outil?
Bah, sur le long terme, ça va être une menace. Bah, du coup, pour les métiers, parce que, comme on a dit et répété, ça va supprimer certains métiers et bah, plus tard, on ne sait même pas ce que ça va devenir. Peut-être qu'ils vont vraiment supprimer tous les métiers et ça sera juste remplacé par des robots. Alors qu'il bah, y a des gens qui vivent de ces métiers-là, qui ont fait des études longues pour ces métiers-là. C'est pas pour voir des robots les remplacer, quoi.
Menace ou super outil, Mathéo?
Tout dépend. Tout dépend comment on s'en sert. C'est à peu près comme l'exemple de la voiture, c'est tout dépend. Ça dépend ce qu'on en fait.
Est-ce que ça vous a amélioré votre qualité de vie aujourd'hui, l'IA, ou pas du tout? Est-ce que ça peut l'améliorer?
Un petit peu.
Non, moi, ça change rien. Ça change rien du tout.
Pourquoi a été créée l'IA? En quelle année, justement?
Il me semble qu'on a discuté tout à l'heure et il me semble avoir entendu 2000-2010.
2010, effectivement, et 1950, les premières notions, en tout cas, d'IA, hein, mais ça a vraiment vu le jour. 2010, et pourquoi est-ce qu'il a été créé au point de départ? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il a été créé pour un particulier?
Non.
Non, c'était militaire, c'est ça?
Alors, est-ce que le militaire est arrivé avant ou après?
Non, il me semble que le militaire est arrivé après, justement.
Donc, l'IA, on l'a depuis très longtemps, en fait. Hein, vous l'avez sur, par exemple, les moteurs de recherche, ou en tout cas, ce qu'on vous propose, notamment sur des propositions de vidéos, etc. En fait, c'est déjà l'IA, hein, ce sont les algorithmes. En fait, l'algorithme, c'est la première partie de l'IA hein, qu'on a eue sur Internet. Donc, amélioration de la qualité de vie, vous ne pensez pas forcément?
Non.
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 Est-ce que l'IA a été créée, je vais aller un petit peu plus loin, pour le bien de l'humanité?
Ouh, intéressant. tout dépend du point de vue, encore une fois, finalement.
Juste financier.
Non, je pense qu'il y a un gros plan financier derrière, ouais, mais après, à voir.
Il y a des abonnements, par exemple, sur ChatGPT, donc bien sûr que c'est financier.
Ça dessert plus le capitalisme que l'humanité.
Ouais.
Après, qu'est-ce qui n'est pas financier aussi?
On voit qu'aujourd'hui, l'IA, on préfère un très gros sujet à ce niveau-là, est détourné notamment, on entend parler au niveau américain, etc. Dans l'armée, qu'est-ce que vous en pensez? Danger ou pas?
Très gros danger.
C'est ça.
Finalement, ça touche à l'armée, donc forcément que ça sent un danger.
Ouais, mais par contre, je vais aller plus loin. Toutes les évolutions technologiques que nous avons autour de nous, presque toutes, au départ, sont passées par l'armée. Donc du coup, est-ce que c'est un danger? Ou une sécurité?
Après, ça dépend ce que c'est de l'armée future.
Tu fais de la radio, toi?
Mais oui, mais j'ai pas le micro en face. Mais en fait, c'est. Non, en fait, je pense que ça dépend de ce qu'on va en faire dans le futur. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, on sait pas ce que l'IA compte faire plus tard. Est-ce que c'est quelque chose que, au contraire, qui va être bien pour nous? Est-ce que c'est un danger qu'on doit vraiment prendre en considération? C'est pas. Je pense qu'actuellement, on le sait pas. Mais peut-être que plus tard, on aura de meilleurs visuels sur qu'est-ce qu'on fait de l'IA. Et j'ai comme l'impression que l'IA va pas forcément... en fait, va faire comme une sorte de flop, un peu. C'est-à-dire que pendant un certain temps, ça va être quelque chose d'incroyable et tout. Et quelque chose va se passer et ça va... Tout va dégringoler d'un coup.
Ouais, la hype va partir, quoi.
Exact. En fait, je pense que ça va plus devenir... En fait, alors, le raccourci est très mal. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va devenir comme le coronavirus.
Ah ouais, waouh.
C'est-à-dire que...
Non, alors, je vois, j'ai la
c'est-à-dire que pendant longtemps, le coronavirus... Je sature un petit peu. Oui. C'est-à-dire que pendant longtemps, le coronavirus, c'est quelque chose qu'on avait peur. On ne savait pas comment on allait fonctionner avec, qu'est-ce qu'il faut faire, les normes de sécurité et tout. Et actuellement, le coronavirus, bah, il est toujours présent parmi nous, mais on vit avec.
En fait, on s'en fout.
Et, il y a toujours des gens qui sont malades, il y a toujours des gens qui, malheureusement, décèdent du coronavirus, et il n'y a personne qui en parle parce que la vibe, elle est partie, et c'est comme ça pour tout. Et je pense que c'est ce que l'IA va faire dans quelques années, pas tout de suite, mais je pense dans peut-être 10-15 ans, c'est que actuellement, elle est ultra mise en avant, même peut-être un peu trop surcotée. Et un jour, juste, on va arrêter d'en parler et on va vivre avec de manière totalement normale. Et on va en venir au sujet de « Ah, mais avant, on parlait beaucoup d'IA et pourquoi aujourd'hui, on n'en parle plus ?»
Bah, comme tu as dit, le Covid, je vois des trucs en mode « Ouais, ça existe encore ça, enfin, il a encore du buzz celui-là. »
Mais c'est quelque chose qu'on a... On a plus pris en considération. On vit avec le Covid. Il faut juste se le mettre dans nos têtes.
Finalement, ce serait pas un peu comme le nucléaire? Au début, on voyait ça comme quelque chose de très dangereux. Comme bon, bah après, certes, il y a eu des actes très dangereux qui ont été faits avec. Mais regarde à l'heure actuelle, on a plein de foyers qui sont alimentés en électricité. Ça fait tourner des centrales du coup nucléaires pour générer énormément de choses, quoi, de bienfaits.
Donc, comme beaucoup d'évolutions technologiques, finalement.
Ouais. Mais en fait, je pense qu'on avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on a ce truc de normaliser ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est pour ça que du coup, en fait, bah, le Covid, bon, la normalisation, on s'est dit, bon, ok, d'accord, voilà, c'est bon, c'est passé. Bah, comme il a dit, les nucléaires, les bombes nucléaires, bah, on se dit, waouh, au début, mais là, c'est en mode, ok. Tout ce qui est guerre, génocide, on voit, mais en fait, on est tellement plus choqués que... Bah, on a commencé à normaliser ça.
Alors, c'est un petit peu comme l'arrivée d'Internet, finalement. Ça va quand même durer. Vous me dites que ça va durer que 10-15 ans. Là, Sacha me dit 10-15 ans. J'en suis pas sûr. Ça va être intégré à des applications, d'ailleurs. Ouais, vous avez constaté aujourd'hui que c'est intégré à des applications. Hein.
Non, je pense que ça va durer bien plus longtemps, mais que ça sera tellement devenu banal qu'on le remarquera même plus.
Voilà, aujourd'hui, on voit que les applications, on pense notamment à tout ce qui est Word, Photoshop, on citait tout à l'heure, on voit que l'IA est intégrée directement à l'intérieur donc, de ces outils, finalement, pour les améliorer. Donc, c'est peut-être le futur en fait, de l'IA, tout simplement, hein, c'est-à-dire d'être complémentaire dans les métiers et intégré à des logiciels. Donc, c'est peut-être effectivement la finalité de l'IA. Je voudrais qu'on parle aussi des travers de l'IA, il y en a notamment sur les fake news ou en tout cas les deepfakes. On va préciser ce que c'est qu'un deepfake. Qu'est-ce qu'un deepfake?
Alors, un deepfake, du coup, c'est une photo fausse, du coup, avec un faux visage pour, faire du mal, entre guillemets, à une personne.
Bah, voilà. Du coup, c'est plus utiliser le physique d'une personne réelle pour à des fins malveillantes, du
oui,
coup.
Oui, voilà, finalement.
Vous parliez aussi d'un autre terme, le...
Brain rot.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, le brain rot, c'est en fait la surconsommation de contenu court sur TikTok ou Instagram, bah, qui finit par fatiguer le cerveau.
C'est ça.
Vous en consommez?
Non, pas du tout.
Pourquoi est-ce que ça consomme le cerveau? Enfin, en tout cas, le peu d'attention qu'on a.
Ah bah du coup, ça réduit l'attention, ça diminue la motivation et ça donne une impression de vide parce que du coup, c'est des contenus en fait où au début, on se dit c'est rigolo, mais plus t'en consommes, plus en fait tu n'apprends rien.
Ça crée une addiction.
Ouais, déjà ça crée une addiction, et en plus de ça, tu n'apprends rien dedans. Y a rien, il n'y a aucun contenu pour apprendre en fait.
Est-ce que finalement ce serait pas un peu comme les dessins animés de l'époque?
J'étais en train d'y réfléchir. Ouais.
Je dis pas, ce serait comme une forme de dessin animé.
Il y a des dessins animés.
Parce que ça a le même format, note, hein. C'est très coloré, c'est court et il n'y a
c'est
pas
condensé.
Vraiment de sujet, entre guillemets. Même s'il y a certains dessins animés qui donnent des valeurs et tout.
Bah, c'est ce que j'allais
dire.
Ça
dépend, tu penses à quoi comme dessin animé?
Alors, honnêtement, non, je pourrais pas te dire.
Qui donne des valeurs, je sais
mais
pas exactement.
Ça, je pense qu'à l'heure actuelle, si on demande à un enfant qu'est-ce que tu regardes quand tu rentres le soir après l'école et tout, il va pas dire des dessins animés. Il va dire je vais aller sur TikTok regarder des brain rot.
Bah, justement, c'est pas normal. Non. Nous, quand on était enfant, moi je me posais devant Dora, j'apprenais l'anglais avec elle.
Voilà.
Voilà, c'est pour ça. Alors que là, maintenant. Y a rien, c'est juste, ouais, c'est juste des phrases répétitives. J'ai mes nièces qui consomment du brain rot, elles connaissent la chanson du brain rot par cœur, mais par contre quand il s'agit de leur cours, surtout pour la plus petite...
La chanson du brain rot?
Oui, il y a une chanson de brain rot.
Okay.
Elle la connaît par cœur, elle est en CP, elle n'arrive même plus... En fait, elle réfléchit pas. Il y a certaines matières, elle réfléchit pas, et du coup elle doit prendre des cours en plus pour améliorer ses notes et son apprentissage.
Je pense même que si on demande à un enfant, est-ce que tu regardes des dessins animés, il va dire c'est quoi des dessins animés. J'ai peur de cette phrase-là. Qu'est-ce que c'est des dessins animés?
En tout cas, 5 ans, les gosses, ils savent déjà ce que c'est le brain rot.
Oui, ils savent déjà scroller sur
des fans. C'est ça.
Et apprendre aussi du coup des vocabulaires pas très ouf, parce que du coup avec cette nouvelle tendance de télé-réalité sur TikTok où les mots ça envoie, il y a vraiment, j'imagine même pas les petits de primaire.
Voilà. Et les parents ils laissent parce que ça a l'air cartoonesque quoi.
Mmh. Bah, surtout en fait je pense que vu que c'est la nouvelle génération, ils vont se dire oui bah c'est bon, on les met devant les écrans et nous voilà quoi. Alors que c'est pas la chose à faire. Moi, ma mère, elle me posait dans la télé, regardait des animés, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait rien.
Alors, est-ce que vous avez aussi vu des fake news?
Oui.
Des fausses informations qui sont donc transformées par IA, on revient un peu à deepfake finalement. Hein. Comment vous faites la différence entre une information assez vraie, finalement vérifiée et...
Ben justement, elle est vérifiée.
Est-ce que ça se voit, Mathéo?
En soi, non. En soi, je ne sais pas si ça se voit. Allô?
Ah, tu touches ton câble de micro.
Ok. Ah, ok. Non. Allô.
Juste un peu le micro, je crois.
Ouais. 1, 2, 1, 2.
Non, faut que tu touches la partie qui est là.
Là, je sais pas si ça marche. Allô. Test. Ok. Ok, parfait. Du coup, tu peux me répéter la question? Attends pour moi.
Est-ce que vous avez déjà vu des fake news? Mm-hmm. Et comment vous faites justement la différence entre une information assez vérifiée ou pas?
Justement, en soi, sur le fait accompli, on ne peut pas vraiment vérifier, mais on peut toujours voir si c'est logique ou pas. C'est sûr que si on voit que Paris a été bombardé par une météorite, voilà.
C'est tellement gros.
Voilà, c'est ça. Mais bon. Après, il y a des choses voilà, assez petites et faciles à croire, quoi. Donc on peut vite tomber dans le panneau, il faut faire attention.
Non, moi je trouve pas. Enfin, là par exemple, récemment, il y a à peine 3-4 heures, CNews, ils ont diffusé une fake news générée par l'IA. Alors que ça prend 2 secondes de vérifier une news.
Donc même les gros réseaux, finalement mainstream, ne vérifient pas forcément. En tout cas, tombent dans le panneau ou des fois aussi transmettent une fausse information.
Ah, et des fois, c'est volontaire, du coup. Parce que pour cette chaîne, ça y va fort. Mais si normalement tu fais ton travail de journaliste correctement, tu vas chercher l'info et voir si elle est vraie et regarder les sources derrière. Mais
quelles sont les émotions que ne peut pas avoir l'IA?
Je dirais la colère, la haine, toutes les émotions malsaines un peu, non?
L'empathie. Ouais.
Et la tristesse aussi. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais triste.
Alors, on a posé une question à l'IA tout à l'heure, en off. Quelle est la question que nous avons posée à l'IA et quelles sont les réponses que nous avons eues?
Alors, il me semble que la question, du coup, c'était décris-toi, donc si tu étais, comment dire?
Un humain.
Plus humaine, ouais. Plus humaine. Donc on a eu plusieurs réponses assez similaires.
On a donc testé sur ChatGPT. Hein.
Oui, voilà. Testé sur ChatGPT avec des comptes du coup gratuits, donc pour partir sur une base neutre et que chacun du coup ait le même compte. Donc ouais, on a eu des réponses assez similaires, sauf moi du coup qui ai eu une réponse assez perturbante du coup qui donc elle m'a demandé si je voulais qu'elle développe plus du coup, si elle était par exemple vraiment humaine, à quoi elle ressemblerait ou comment elle était habillée. Et honnêtement, sa réponse était assez classique. Elle s'est assimilée à une personne dans un café avec un petit PC ou un petit carnet, donc une personne assez calme et sain d'esprit, quoi.
On aurait dit une réponse humaine finalement.
Voilà, finalement. Donc c'est un peu ça qui fait peur aussi, non?
Je vois si j'ai rien oublié sur le sujet.
Il me semble qu'on a fait le tour.
Ouais, c'est ce que je suis en train de
dire. Je sais pas combien de temps on est là.
Est-ce que vous pensez que pour sauver la génération, la précédente, donc avant nous, est-ce que vous pensez que l'IA devrait finalement disparaître? Ou en tout cas être plus régulée?
Non, je pense pas.
Où ils vont apprendre à vivre avec, comme nous, quand on a eu l'apparition d'Internet.
Ouais.
Moi, je pense que... En fait, ça dépend. Je pense que, moi, de mon point de vue à moi, elle devrait totalement disparaître. Voilà. Mais si elle est bien régulée, dans le sens où, imaginons, elle donne des réponses courtes qui nous poussent, nous, par exemple, à nous documenter, je pense que ça serait pas mal, en vrai.
Émilie?
Je pense que ça devrait être... interdit ou alors très régulé.
Est-ce qu'on peut devenir ami avec un algorithme, un IA?
Non.
Est-ce que justement c'est pas le risque pour si. Certaines personnes?
Si, si. En temps normal, du coup, est-ce qu'on peut devenir ami avec? Non. Mais il y a eu un cas où un ado a mis fin à ses jours parce que justement, vu qu'il était isolé de base, il n'avait pas forcément des personnes à qui parler, l'IA lui a un peu monté la tête concernant ses idées noires et du coup il est passé à l'acte.
Est-ce que vous avez constaté parfois quand même des pare-feux, entre guillemets, c'est-à-dire suivant les questions, elle va pas forcément répondre, en tout cas ça va être un petit peu biaisé.
Je sais pas du tout, mais je sais que par exemple quand on aborde les sujets de VSS par exemple, elle va directement supprimer les messages. Par exemple, surtout si on va dire c'est un petit peu détaillé avec des mots,
des mots compliqués quoi.
Ouais, pas les mots compliqués, mais les mots de base. Elle va supprimer, elle va strike le message.
Ok.
En tout cas, on a vu que c'était un très vaste sujet, l'intelligence artificielle. On verra son évolution dans les prochains mois, les prochaines années, puisque ça va très vite. On rappelle que vraiment l'explosion, ChatGPT, Gemini, etc., c'est 2022. Donc c'est assez récent. On a dit 2010, mais 2010, c'était à travers les algorithmes, les propositions qu'on avait sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et donc vraiment, le développement est depuis 2022. On voit que ça s'accélère ces dernières années, avec, on le disait tout à l'heure aussi, un point d'inquiétude, puisque ça va être utilisé, c'est déjà utilisé au sein de l'armée. On pense notamment aux drones, etc. Donc vaste sujet qu'on aura peut-être l'occasion, en tout cas, de redébattre au sein de la mission locale du Comtat Venaissin dans cette émission en air. Merci à tous les trois. Merci Nasra, Mathéo, Émilie d'avoir été présents avec nous. Je rappelle que vous êtes donc en contrat engagement jeune au sein de la mission locale du Comtat Venaissin. Merci beaucoup et
merci
à très vite.
À vous.
Et merci Sacha aussi de nous avoir accompagnés pour cette émission.
Bisous, bisous.